On a voulu ces témoignages pour que vous puissiez nous raconter votre histoire, votre parcours semé de doutes, d'angoisses, mais aussi d'espoir et de joie. La communauté Fertinity, ce sont des femmes, des hommes, des couples qui vivent des situations d'infertilité telles que la PMA, les fausses couches, l'infertilité inexpliquée, l'endométriose, le SOPK ou encore l'insuffisance ovarienne. On ne pouvait pas commencer cette série de témoignages sans celui de Marianne, cofondatrice du site. Donc, bonjour Marianne.
Bonjour Clémentine.
On se connaît bien Marianne puisqu'on a fondé le site Fertinity ensemble, mais pour tous ceux qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter ?
Bien sûr, donc je suis Marianne, j'ai 43 ans, j'habite en région parisienne, je suis mariée et j'ai la chance d'avoir deux enfants, une fille Pia qui a 14 ans et un garçon Léon qui a 6 ans.
Est-ce que tu peux continuer par nous raconter du coup ton parcours ?
Oui, bien sûr. Alors, effectivement, si j'ai fondé avec toi ce site internet, c'est parce que j'ai moi aussi eu une problématique pour avoir un bébé. Et j'ai fait des fausses couches à répétition. J'ai fait 5 fausses couches à répétition, donc sur une durée de 5 ans environ, quand j'étais plus jeune. Voilà.
Est-ce que... Quand on est déjà passé justement à une, deux, trois fausses couches, comment est ton état d'esprit ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? Comment t'as vécu ton parcours ?
Alors déjà, j'étais donc plus jeune. J'ai voulu avoir un bébé vers l'âge de 23 ans avec mon premier compagnon, donc le papa de ma fille. Et effectivement, ça a été assez rapide pour tomber enceinte, puisque je suis tombée enceinte, je crois, le deuxième cycle. Donc c'était une super nouvelle. Mais en revanche, assez rapidement, on m'a annoncé que c'était un œuf clair. Donc déjà, ce qui est compliqué, c'est qu'on ne connaît rien à tout ça en général. On découvre tous ces termes. Moi, je savais pas du tout ce qu'était un œuf clair. Donc il a fallu aussi commencer à s'armer de patience, mais surtout à s'interroger sur ce que voulait dire un peu toute cette terminologie de la grossesse. Alors que pour moi, effectivement, un peu simplement, on voulait un enfant, on allait faire un enfant et ça allait très bien se passer. Donc j'avais 23 ans quand j'ai commencé ça, donc pas très informée sur le sujet, je dois dire.
Est-ce que tu trouves que tu as bien été accompagnée justement d'un point de vue médical? Quand tu parles d'œuf clair, tu racontes que tu comprenais pas bien le vocabulaire. Comment t'as été aidée là-dessus ?
Alors non, pas forcément. Effectivement, on comprend pas. Moi, j'avais une gynécologue de ville, on va dire, donc voilà, qui m'avait donné la pilule en jeune adulte, qui voilà m'avait compris que je souhaitais faire un bébé, qu'on avait arrêté, etc. Donc c'était très. Ma gynécologue était très sympathique, mais je dois dire, m'a tout de suite dit, bon, voilà, ça arrive, c'est un œuf clair. Ce sont des choses qui arrivent, mais sans plus d'informations. C'est plutôt moi qui suis tout de suite allée traîner sur Internet.
Quand tu dis gynécologue de ville, ça veut dire qu'elle n'était pas spécialisée en infertilité,
non.
C'est ça ?
Exactement, ouais, tout à fait, puisque à la base, je ne me sentais pas infertile ou avec des problématiques qui pouvaient être liées à la fertilité. Je pensais que, voilà, encore une fois, j'allais essayer, ça allait venir. J'avais entendu dire que ça pouvait mettre quelques mois, mais sans plus.
Donc du coup, t'es restée avec cette gynécologue, hein. Comment ça s'est passé ?
Du coup, je suis restée avec cette gynécologue parce que il n'y avait pas lieu de changer. Elle m'a tout de suite rassurée en me disant, oh, ben, un œuf clair, ça arrive, donc c'est une fausse couche. Effectivement, tout s'est plutôt bien passé, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas eu de problématique particulière. Donc je suis restée avec elle, mais... À la deuxième fausse couche, quelques mois plus tard, c'est vrai que entendre à nouveau ça arrive, c'est pas grave, c'était rassurant et en même temps paniquant, à vrai dire, parce que je me suis dit bah ok, ça arrive, c'est pas grave, mais c'est-à-dire on va faire ça combien de fois le ça arrive, c'est pas grave. C'est ça qui interpelle souvent dans ces cas-là.
Donc à l'issue de cette deuxième fausse couche, qu'est-ce que tu décides de faire ?
À l'issue de cette deuxième, en fait, je décide rien. Malheureusement, ça se passe aussi dans les premiers mois, c'est-à-dire avant, en tout cas, la première écho des 12 semaines. Je perds du sang. Je vais voir ma gynécologue qui elle n'avait pas l'appareil d'échographie, donc il m'envoie faire une échographie, et là on m'annonce que c'est une fausse couche et que je vais perdre pas mal de sang et que tout va partir. Il y a aussi des termes qui sont toujours un petit peu compliqués à entendre, parce que pour nous, en tout cas moi là, j'avais déjà mon bébé en tête, donc c'était un peu compliqué, mais je décide rien du tout, puisque la gynécologue me dit à nouveau que c'est pas grave, ça arrive. Donc elle ne me propose rien, pas d'examen, etc. Et je m'entends d'ailleurs très bien avec elle, donc tout va bien. Mais à la troisième fausse couche, donc plusieurs mois après, puisque là, pour le compte, il y a peut-être eu 6-7 mois pour retomber enceinte. Déjà parce qu'on ne le dit pas assez, mais le corps a besoin de tout évacuer, certes, mais surtout, on a aussi besoin de se remettre un peu, parce que ça, c'est quand même compliqué ce qui se passe.
Est-ce que tu as réessayé à chaque fois, juste après tes fausses couches ? Ou tu as laissé quelques mois passer pour...
Oui, je crois qu'il y a un peu deux écoles. Certains nous disent « vous pouvez réessayer tout de suite » et d'autres nous disent « laissez le temps un peu à votre corps de se remettre ». Moi, je pense, en tout cas pour ma part, que c'est important de s'écouter soi, de se poser la question de « est-ce que je suis prête à réessayer ou pas ?» Et en même temps, voilà, pour être très claire, je ne prenais plus la pilule, donc de toute façon, j'essayais, quoi qu'il en soit. Dès qu'on faisait l'amour, potentiellement, je pouvais tomber enceinte. Donc, je réessayais, et puis j'attendais de voir si ça allait venir. Mais là, au bout de quand même, déjà la deuxième fausse couche, je me suis dit « aïe, ça se passe pas comme prévu ». Mais j'étais assez jeune, mes amis n'avaient pas trop encore d'enfants, donc bon, finalement, je me suis un peu armée de patience, mais ça allait bien. À la troisième, il y a quand même une vraie alerte. Il y a une alerte de là, concrètement, il y a quand même un problème. Et d'ailleurs, la gynécologue m'a à ce moment-là dit on va faire des examens.
D'accord. Donc, toujours cette même gynécologue de ville,
oui,
non spécialisée en infertilité, te,
oui,
dit de faire des examens.
Exactement. Mais à ce moment-là, en parlant autour de moi, je commence à entendre des filles qui vivent la même chose ou qui ont vécu la même chose, des couples qui me disent « Ah, mais nous, on a été voir tel professeur ou tel gynécologue, c'est beaucoup mieux. » Et je trouve que c'est à ce moment-là que c'est compliqué de se dire « Mais finalement, est-ce que je suis bien suivie ?» Parce que je m'entends bien avec elle, mais est-ce que je suis bien suivie ?
Comment t'as rencontré justement ces personnes ?
Alors, pour être clair, c'est juste en parlant. C'est parce que je pense aussi, et c'est aussi pour ça qu'on fait ces témoignages-là, c'est qu'on sait que c'est compliqué à vivre, et tellement compliqué que finalement, il peut y avoir une forme de tabou, mais il peut y avoir aussi une forme de... On a envie d'en parler parce qu'on a envie que ça sorte, quoi. Donc moi, j'en ai parlé aussi, et aussi parce que à ce moment-là, je me suis mariée avec mon compagnon, et que viennent toutes ces phrases qui se veulent bienveillantes et qui sont en fait super blessantes quand on vit cette situation-là, alors c'est pour quand, le bébé, vous en êtes où, alors, c'est déjà un peu intrusif, et puis deux, ça fait du mal. Moi, c'est vrai que je prône le côté arrêter de poser ces questions à tout le monde, parce qu'en fait, on ne sait jamais dans quelle situation se trouvent les couples. Et donc à ce moment-là, moi j'en parlais quand même un peu ouvertement en disant non, moi ça se passe pas comme prévu en fait. Je fais des fausses couches, j'arrive pas à garder les bébés, on sait pas pourquoi. Et c'est à ce moment-là que certaines personnes, pour le compte bienveillant, me disaient attends, va voir un tel. Et là je me suis effectivement tournée vers un professeur très très réputé dont on m'a parlé aussi pour avoir un deuxième avis. J'avais besoin de savoir si les premiers examens qu'on me donnait à faire étaient les bons. Voilà.
Ok. Donc, te voilà partie pour faire des examens.
Oui.
Toute une batterie d'examens uniquement pour toi, pour ton mari également.
Alors, en tout cas, à l'époque, donc ça date un tout petit peu, mais c'était que pour moi. On proposait jamais de faire ni un spermogramme, ni de suivre mon mari. Ce qui est sûr, c'est que comme il y avait finalement fécondation, on s'est un peu focalisé sur moi. Donc, j'ai eu beaucoup de prises de sang à faire, Et puis des examens, donc pas tout de suite d'ailleurs l'hystérographie, l'hystéroscopie, mais j'ai eu quelques examens à faire. Et puis ce professeur a assez rapidement dit on va vous donner une batterie de l'aspégique nourrisson, puis en même temps des anticoagulants. Comme on sait pas du tout ce que vous avez, on va partir un petit peu sur tout. C'était pas très rassurant, mais en même temps j'avais l'impression qu'il se passait quelque chose. Et je crois que quand on vit ça, on a presque envie qu'on nous trouve un problème, parce qu'on se dit si on trouve un problème il y aura peut-être une solution, alors que tout le temps me dire il y a rien, tout va bien, c'est compliqué
à
gérer,
c'est la faute
à pas de chance, et en même temps on culpabilise énormément. Alors moi je culpabilisais parce qu'on me disait viennent à ce moment-là comme on voit que la personne en face de nous est stressée. Moi je me suis reçue pas mal de pars en vacances, c'est dans la tête, arrête d'y penser. Enfin, je pense que toutes celles qui nous écoutent l'ont entendu, et là il y a les poils qui vont se hérisser sur les bras de tout le monde. C'est terrible à entendre, terrible, parce que alors là pour le compte j'avais l'impression que c'était moi la fautive et que c'était moi qui faisais que je gardais pas les bébés. Donc c'est hyper dur, et j'avais envie de pouvoir dire ah mais non, mais j'ai ça comme problème, c'est ça qui fait que je garde pas les bébés.
Et d'un point de vue couple, comment ça s'est passé?
Moi j'avais un mari qui était très triste pour moi, mais qui d'un premier mariage avait déjà un enfant, donc je pense qu'il était rassuré sur sa paternité, on va dire, et qui était très triste de ce que je vivais, mais bon, malheureusement, on l'a pas trop vécu ensemble. Je pense que chaque couple vit très différemment. Je pense que les hommes et les femmes aussi ne le vivent pas du tout de la même manière. Donc, il était très gentil sur le côté. Voilà, moi, je faisais des fausses couches, je le disais pas au travail. C'était tabou. Je prenais à peine une journée de congé, et puis après, pendant une semaine, j'étais tellement mal. Mais voilà, qu'il était malheureux pour moi, mais bon, pour lui, ça allait venir. Les paroles rassurantes des gynécologues étaient là. Puis, de toute façon, on avait le temps, on était jeunes. Bon, voilà. On ne le vivait pas de la même manière. C'était un peu compliqué.
D'accord. Et justement, au travail, comment c'est passé? Tu n'en as pas du tout parlé?
Non, j'en parlais pas parce que déjà, y a un peu ce tabou de la fausse couche. Et puis aussi, on ne dit pas sa grossesse à son employeur avant 3 mois, sauf si on le connaît très bien et que dans des situations particulières. Mais moi, j'avais un travail de bureau, j'avais un employeur avec qui je m'entendais correctement, mais voilà, c'était pas mon meilleur ami. Donc je me taisais quand je tombais enceinte, je ne le disais pas. Si je le disais à une ou deux collègues, évidemment, mais parce que les tests de grossesse, je pense que j'en ai fait plus de 50, et donc certains ont été faits sur mon lieu de travail avec la collègue qui m'attend derrière la porte, pour être très honnête. Donc oui, je le disais pas, et quand je faisais la fausse couche, voilà, je prenais en général un RTT, donc c'est sympathique parce que ça, tout le monde me demandait si j'avais passé de bonnes vacances, plus ou moins, alors que moi je l'avais passé au fond de mon lit à saigner, ou dans ma baignoire à saigner. Donc c'est compliqué, souvent dans le travail on le dit pas assez. Parce que comme ça se passe assez tôt, on l'a pas encore annoncé, donc finalement personne le sait. On nous dit souvent « t'as mauvaise mine, t'es fatiguée », et on a envie de crier « oui, mais je suis en train de perdre mon bébé en fait ». Et juste à la troisième fausse couche, effectivement, ça s'est pas passé comme les autres, c'était plus tardif, et donc j'ai eu un curetage. Et là, effectivement, j'en ai parlé à mon employeur. Là, je l'ai dit parce que j'étais hospitalisée une journée, mais j'ai eu un arrêt de travail d'une semaine. Et en fait, un peu bêtement, je me suis dit, ça vient du gynécologue, ils vont le voir au RH, oh là là. Donc, j'ai préféré le dire, que j'avais eu un problème, mais j'ai pas souhaité dire que c'était un problème gynécologique. J'ai pas souhaité dire que c'est une fausse couche. Et puis, il y a la problématique de dire que si je fais une fausse couche, potentiellement, dans 2 mois, je vais vous annoncer que je suis enceinte. Et ça, c'est pas toujours bien vu partout. Donc, moi, mon employeur, en tout cas, j'avais pas envie de lui dire à 25, 26 ans que j'allais bientôt avoir un bébé. Donc, c'était un peu secret, effectivement.
Mais du coup, comment était l'ambiance au boulot? Parce que tu ne t'étendais pas sur ta vie personnelle, mais est-ce que tu trouvais que tu étais toujours aussi performante? Est-ce que tu trouvais que ta relation avec ton manager était toujours aussi bonne, ou qu'il se méfiait un petit peu?
Non, il n'y a pas une méfiance, mais c'est vrai que non, on n'est pas bien. Parce que je dirais à la première ou deuxième fausse couche, ça allait, puisque j'étais assez confiante, je savais que ça allait marcher, j'avais pas d'inquiétude. À la troisième, les inquiétudes sont arrivées. et on ne fait que penser à ça. Donc j'allais aux toilettes, je regardais le fond de ma culotte, je faisais des tests, j'avais des hauts et des bas, hormonaux aussi bien sûr. Donc non, on est, je peux pas dire que j'étais moins performante parce que j'aimais mon travail et je pense que je le faisais bien, mais ma tête, ma charge mentale était prise par le fait de me dire mais en fait peut-être ça va pas marcher. Peut-être c'est ça qui va se passer.
Est-ce que tu es restée pendant toutes tes fausses couches avec le même employeur ? Comment s'est passé du coup après la troisième fausse couche ?
Non, effectivement, j'ai changé de job. J'ai eu une autre proposition et j'entendais tellement les gens me dire « pense à autre chose, fais autre chose, ça va venir quand tu t'y attends le moins » qu'au final, c'est certes un peu blessant et un peu culpabilisant, mais je me suis dit « bah allez, ça viendra si ça vient, je change de job et puis tant pis, hein, à tous les coups, j'aurai peut-être ce grand bonheur de tomber enceinte le premier mois de mon nouveau job et tant pis, parce qu'on en est là hein, dans ces cas-là. » Et donc j'ai changé de job, je ne suis pas retombée enceinte tout de suite, ça a pris encore à nouveau peut-être 6-7 mois. Et là, je tombe enceinte je suis assez suivie. J'ai des échos assez régulières tous les 15 jours dans mes souvenirs. Et ça dure puisque je passe le premier cap des 12 semaines avec une échographie très bonne.
Donc là, tu es suivie par le fameux professeur.
Je suis suivie par le fameux professeur, d'accord, effectivement. Et toujours, hein, ma gynéco qui me suit. Moi, je ne lui avais pas caché que j'avais pris un deuxième avis. Et voilà, je me suis dit, on va former une équipe, ça va être super. Et puis, patatras, effectivement, plusieurs semaines après cette première écho très positive. Enfin, en tout cas, l'écho des 12 semaines qui valide un petit peu le côté « ça y est, c'est passé ». Je l'annonce effectivement à mon employeur, ça se passe très bien. Et puis, j'ai des échos régulières. Et puis, une écho, on me dit, non, le cœur s'est arrêté. C'est toujours très violent parce qu'on n'a pas d'informations. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. En tout cas, on sait que, voilà, ce petit être que vous regardez et dont vous avez en général déjà trouvé le prénom, ça s'est arrêté. Je n'ai pas d'autre explication que ça. Et là, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, le professeur est assez froid. Parce que je suppose qu'il en voit tous les jours. Mais moi, là, ça me casse vraiment de voir qu'on me dit à nouveau « Oh, ça finira par marcher ». Là, cette phrase ne m'atteint plus. Et en tout cas, elle me fait très mal. Elle me fait très mal.
Et donc, après cette quatrième fausse couche, qu'est-ce qui se passe ?
Là, je débarque dans le bureau d'une nouvelle gynécologue qu'on me fait rencontrer, dont on me dit énormément de bien. Et là, oui, c'est un peu la révélation de la super gynéco, déjà spécialisée en infertilité. Donc qui sait exactement de quoi je parle, qui est aussi gynécologue dans un grand hôpital sur l'infertilité et qui me reçoit, mais véridique, hein, avec une tasse de thé et qui m'écoute et qui comprend que là c'est lourd, là le sac à dos à porter il est plein de pierres et ça le fait pas. Donc elle le comprend, elle me redonne encore des examens, donc là effectivement, hein, hystérographie, hystérosalpingographie, hystéroscopie, enfin voilà, tous les termes qu'on entend, à nouveau une batterie de tests sanguins, on comprend toujours pas ce qui se passe parce que tout va bien, il y a juste effectivement un examen qui se passe où je tombe dans les pommes de douleur, donc tout ça commence à être un peu compliqué. Et voilà, elle refait cette batterie, elle me dit qu'on va y arriver. Elle parle de « on ». Elle est très team, elle est très équipe. Donc ça me fait du bien, je pense aussi de changer. Ça me fait du bien de repartir de zéro.
C'est quel examen qui t'a fait tomber dans les pommes de douleur ?
C'est l'hystérographie, on va envoyer du liquide. Alors, j'ai pas le détail précis, exact de ce que c'est, et pas les mots justes. Hein. Notre gynécologue sur le site en parlerait bien mieux que moi. Mais effectivement, on va voir si les trompes sont bouchées, on va voir si, grâce à un liquide en fait, qui est injecté. Et moi, ça m'a fait vraiment tomber dans les pommes de douleur. Et je suis sortie de ça un peu KO, un peu comme un boxeur qui se dit « j'arrête pas de prendre des coups, là, mon corps subit, mon corps grossit, mon corps va pas bien. Ma tête, elle tient comme elle peut, mais toutes mes copines tombent enceintes et ça fait mal. » Et en fait, ouais, je sors de là mal et cette gynécologue me relève. clairement me dit c'est un combat, on va y arriver, et très positive. Et je pense que j'avais besoin d'entendre ça, d'avoir quelqu'un qui est sur le ring avec moi, un vrai coach. Et je pense que c'est super important d'avoir quelqu'un en qui vous avez confiance, mais surtout qui, avec qui vous avez l'impression de partir au combat, quoi. J'étais pas toute seule, mon mari certes était là, mais à nouveau voilà, et il était peut-être pas forcément avec moi sur le ring, mais en tout cas ce coach là gynécologue, elle l'était bien.
Et lui, à ce moment-là, donc on est à ta cinquième fausse couche,
bon, si quatrième, je me...
ouais, quatrième, ouais, ouais, ouais. Quatrième fausse couche. Ton mari a des examens de
non,
son côté?
Non, toujours pas. Et non, parce qu'il y a fécondation. Donc à partir de là, bon, simplement, il y a aussi encore un curetage. Ça se passe pas très bien. J'évacue pas ce qu'il faut. C'est compliqué. Et là, le professeur lui dit que parce qu'on avait encore un rendez-vous avec lui, et c'est d'ailleurs ce qui m'a fait partir chez cette nouvelle gynécologue dardard, nous explique qu'on va faire quelque chose d'un peu compliqué en Espagne. On va, une fois qu'il y aura fécondation, on va faire voir un peu ce qu'a l'embryon, si c'est pas quelque chose de génétique. Et là, ça lui fait se dire, bon... trouvons quelqu'un de peut-être un peu moins médical, parce que lui aussi entend beaucoup, c'est dans la tête, etc. Donc lui, il est porté là-dessus, mais quand je reviens de ce rendez-vous chez cette gynécologue, il est tout à fait rassuré pour moi. Il sent que j'ai repris du poil de la bête, et il pense que voilà, on va y arriver.
Et en parallèle, est-ce que tu t'es fait aider également par des thérapies, par un suivi psychologique, par...
Oui, alors, effectivement, aujourd'hui, sur le site, on va proposer un suivi nutritionnel et de sophrologie. Moi, pour le compte, on ne parlait pas trop nutrition, on ne parlait pas trop sophrologie à l'époque. Mais en revanche, oui, j'ai poussé la porte d'une psychologue qui m'a beaucoup aidée, parce que j'avais besoin, je pense, un peu de déverser ma douleur. Et puis sans faire une thérapie, parce que fallait, il y avait rien à comprendre, à part en fait à plutôt me coacher. Donc je sais qu'aujourd'hui il y a aussi des coachs là-dessus, mais pour me faire me sentir un petit peu mieux. Et puis surtout j'ai trouvé du réconfort dans un groupe de paroles. Alors là, à l'époque c'était un forum, je pense qu'aujourd'hui je me ruerais sur les podcasts, et puis quelques livres aussi, quelques lectures qui m'ont apaisée. Et ce groupe m'a vachement aidée, parce que là je parlais à des personnes qui vivaient la même chose que moi, et ça c'était quand même super, parce que mon mari était très gentil et très dans la compréhension de ce qui se passait, mais moi j'avais besoin de parler aussi franchement de j'ai fait un test négatif et j'ai envie de le balancer au sol, ou j'ai fait un test positif et j'ai aussi envie de le balancer au sol parce que je sais ce qui m'attend derrière, et ce sera peut-être pas tout rose. Et c'était super intéressant de pouvoir en parler, et voilà, et c'est aussi pour ça que ce podcast là va un peu exister, en tout cas cet audio. Parce que moi ça me faisait du bien d'entendre que ça arrivait à d'autres, en fait. J'en avais marre d'entendre que les autres tombaient enceintes, j'en avais marre d'aller avec mes cadeaux de naissance voir mes copines et leurs bébés. J'étais super heureuse pour elles, mais tellement triste quand je rentrais chez moi, et je culpabilisais de ça. Je me disais c'est pas bien de pas se réjouir, mais j'arrivais plus, en fait, c'était trop dur, parce que j'avais l'impression que de toute façon ça marcherait plus, quoi. C'était un cycle infernal de fausses couches.
Bon, la belle nouvelle, c'est que ça a marché.
Alors oui, c'est clair, il y a quand même eu encore une cinquième fausse couche. Mais très vite après, ça a fonctionné. Alors oui, ce fameux test de grossesse, je l'ai envoyé par terre en me disant je vais en faire une sixième, parce que je voyais tout en noir à cette époque-là, là-dessus en tout cas. Mais grâce à la psy, grâce à la gynéco, grâce à des copines ultra bienveillantes, et voilà, j'avançais. Et aucune idée pourquoi, parce que pour ma part, on n'a jamais rien trouvé. Jamais. Donc ça a fonctionné, et je passais les étapes. Chaque semaine j'avais une échographie, chaque semaine j'arrivais le ventre noué, je me disais mon pauvre bébé qui doit sentir tout ça, et en fait chaque semaine je passais l'écho, quoi. J'avais l'impression de passer un examen, c'était un peu affreux. J'avais pas du tout une grossesse comme les autres, mais au final ça avançait. Et puis, ma fille est arrivée, quoi. Enfin, j'aurais pu l'appeler Victoire, tellement ça a été un combat. Ça a été pire, mais ma fille est arrivée en pleine santé, d'une grossesse qui s'est donc très bien passé finalement. Certes, très contrôlé, très surveillé, avec un accouchement dans un établissement pour grossesse à risque, hein, parce que j'ai dû être suivie là-bas après. Mais oui, voilà, ça a marché. Ça a marché, ouais.
Merci, Marianne.